Bienvenue sur Oceanan Happiness Therapy, votre dose de bien-être et d'océan pour prendre soin de vous au quotidien. Aujourd'hui, j'accueille Anouk Koroller, une pirate moderne passionnée de l'océan et une entrepreneure inspirante que j'avais hâte de vous présenter.
Hello Anouk, je suis ravie de te retrouver ici sur une plage que j'adore, qui est le Port Vieux, où on vient se retrouve pour déjeuner ensemble. Donc voilà, c'est un endroit au Pays Basque où je t'ai rencontrée et du coup, on est devenus très amis depuis. Et je suis ravie de t'avoir enfin sur la chaîne de podcast parce que c'est plutôt moi qui étais sur la tienne les dernières fois. Donc merci d'être venue. Et aujourd'hui, on va parler de l'océan, de ton amour pour l'océan, parce qu'évidemment, si on a beaucoup accroché, c'est parce qu'on se retrouve sur plein de valeurs, dont celle de l'océan. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Anouk, ce que tu fais dans la vie et ce que tu as un petit peu envie de nous raconter?
Alors déjà, merci Laure, c'est ouais, trop agréable de se retrouver pour ce moment, pour qu'on échange. J'avais adoré aussi t'interviewer, donc voilà, c'est toujours un plaisir de converser avec toi. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anouk, j'enseigne le yoga depuis plus de 10 ans, dans le Pays Basque mais aussi en ligne, et j'aide principalement les femmes dans leur épanouissement personnel, donc notamment à travers leur santé grâce à l'outil du yoga, mais aussi à mettre en place dans leur vie des business dans lesquels elles se sentent épanouies. Et on aurait l'impression que c'est un peu séparé, l'épanouissement physique et émotionnel et l'épanouissement professionnel, mais pour moi on n'est qu'une personne, donc en soi j'ai l'impression d'aider une personne dans son être entier à travers ses différents aspects. Et c'est pour ça que les formations que je propose sont autour du yoga, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et j'aide principalement les femmes parce que je suis une femme et du coup, je peux vraiment me référer aux autres femmes. On peut rencontrer des problématiques qui nous sont semblables. Voilà, et puis comme toi alors j'adore l'océan, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés ici, parce qu'on a un amour mutuel pour la mer. Je pratique beaucoup le surf, l'apnée, et voilà, c'est jamais trop facile de se présenter je trouve, mais je dirais qu'aujourd'hui voilà, c'est ce qui me vient.
C'est parfait. Est-ce que tu peux, avant justement, tu parles d'accompagner les femmes, j'aime beaucoup la métaphore que tu utilises où tu parles de voilà, les aider à naviguer leur océan intérieur. Donc de nous parler un petit peu de ce que tu proposes concrètement justement pour accompagner les femmes à naviguer leur océan intérieur. Et est-ce que juste avant, tu peux nous raconter qui était la petite Anouk, d'où tu viens et ce qui a fait qu'aujourd'hui tu accompagnes les femmes, quel est le chemin que tu as pris qui t'a donné cette envie d'accompagnement?
Okay. Alors du coup, pour ma réponse, je vais commencer par ta deuxième question et ça va me mener sur la première. Donc moi je suis née en France du côté de Chamonix dans les Alpes. Et puis, mon papa faisait beaucoup de surf et de sport d'eau, de sport de glisse, du ski, du snowboard, voilà, du surf. Donc déjà, enfant, il nous a transmis à ma sœur, ma mère aussi et moi, cette passion pour les sports de glisse. Et donc l'été, voilà, on faisait beaucoup de surf sur la côte basque. Et du coup, quand est arrivée la fin du lycée, quand j'avais voilà, 17 ans, toutes mes copines partaient soit en prépa, soit en école de commerce. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai envie d'aller surfer. J'ai envie d'apprendre l'anglais. En soi, apprendre l'anglais, c'était un peu une excuse pour partir dans un pays étranger. Et donc, j'ai choisi l'Australie, où j'y suis allée au début juste pour 6 mois, voilà, pour apprendre l'anglais, pour surfer. Et après ça, je devais rentrer en France pour intégrer une école de commerce. Et en fait, au moment où le faire... je me sentais pas du tout bien, ça me correspondait vraiment pas. Et du coup, à ce moment-là, mes parents m'ont proposé de continuer mes études, cette fois en communication et en Australie. Donc, Ouais. Donc j'ai fait un bachelor de communication en Australie et donc voilà, c'est là où vraiment l'océan a pris une grande place dans ma vie parce que ben je passais mes journées à surfer, voilà, puis la culture australienne, elle est pas basée que sur le travail, chose qu'en France la valeur du travail est énorme, en Australie moins. Même si voilà, elle est aussi importante, mais en tout cas c'est un rapport différent. Donc j'avais voilà, vraiment du temps libre pour m'occuper de mes passions. Et puis arrivé à la fin de mon bachelor, eh ben, je m'étais dit un petit peu que j'allais suivre la voie toute tracée de on sort d'une école, on enchaîne avec un CDI. Bon bref, c'est un peu l'histoire de classique. Mais en fait, moi, j'ai même pas réussi à faire le pas parce que au moment de mon stage qui devait mener à un boulot, j'étais tellement mal que j'ai atterri plusieurs fois à l'hôpital parce que j'avais des brûlures abdominales, je vomissais, je savais pas ce qui me se passait. Donc j'ai atterri 3-4 fois à l'hôpital, j'étais sous morphine, on savait pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un médecin me dise: mais Anouk, are you stressed? Et moi, ça me paraissait tellement lunaire que le stress pouvait provoquer ça, je me disais non mais vous devez vous tromper. Mais quand même, je me suis dit bon, il doit y avoir quelque chose. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Mais je me suis dit, bon, ben, j'ai 21 ans, je suis en Australie. C'est un des plus beaux endroits, selon moi, au monde. Et pourtant, je vais pas bien, je suis pas épanouie. Et en fait, à ce moment-là, je réalise que j'ai 21 ans, que je ne me connais pas. Parce qu'à 21 ans, ben, on apprend tout juste à se connaître, en fait. On a très peu d'expérience de vie. Et du coup, je me dis, bon, ben... Peut-être qu'en fait, là, ce que j'essaye de faire, ça ne me correspond pas à moi. Mais c'est OK, en fait. Du coup, partons en exploration pour apprendre, pour que j'apprenne à me connaître. Et du coup, là, il y a eu un changement de direction où voilà, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes enseigner le surf, parce que je faisais un petit boulot aussi en tant que prof de surf, donc... mettons-nous à fond là-dedans. Et puis ça m'a emmené vers le yoga, et ça m'a emmené vers autre chose, et puis ça m'a emmené vers des rencontres. Et surtout au-delà de ça, qu'est-ce que je me suis sentie heureuse, et qu'est-ce que je me suis sentie actrice de ma vie, alors que je n'ai pas beaucoup de thunes, j'habitais dans des trucs un peu précaires, mais j'étais connectée à mes rêves. Et en fait, pour rejoindre aussi ta première question qui est comment cet univers de naviguer l'océan de la vie est venu, c'était ça, hein. C'est que notre monde intérieur, il est vraiment pour moi riche et complexe. Et en fait, dans nos vies, on est très attaché à ce qui se passe à l'extérieur. Donc à toute cette information extérieure qu'on a, ce que nos parents nous disent, de quelle direction on doit prendre, ce que notre société elle veut de nous parce que c'est comme ça, qu'est-ce qu'une femme doit faire, et tout ça en fait ça vient de l'extérieur, alors que pour la plupart d'entre nous on a très peu de compréhension de ce qui passe à l'intérieur. Et fermer ses yeux et commencer à reconnecter avec nos ressentis, notre mental, nos émotions, tout ça, waouh, mais quel travail! Et pourtant, pour moi, c'est la chose la plus importante parce qu'une fois qu'on commence à avoir des bribes de connaissances de soi, c'est là où on peut s'orienter dans une direction de vie où on se dit « je viens un truc de ouf et j'apporte quelque chose au monde qui a une vraie valeur et qui contribue de manière profonde un monde qu'on souhaite être meilleur. » Voilà.
Merci beaucoup Anouk, c'était hyper intéressant. Il y a plusieurs choses dont tu as parlé qui m'ont fait écho et je trouve que c'est là aussi où on a vraiment besoin de personnes comme toi. Je trouve que c'est hyper mature à 20 ans de dire, au lieu de choisir, enfin de suivre un chemin qui ne me ressemble pas et de sentir que je vais mal, j'apprends à écouter ce qui, moi, me touche au plus profond de moi-même et là où je me sens bien à ma place et je suis cette voix. Et je trouve que c'est vrai que ça demande une grande force de suivre ses rêves et c'est aussi ça demande d'apprendre à se connaître. Et je pense que c'est là-dessus où tu as beaucoup développé aussi tout ce que tu proposes aujourd'hui à des femmes des fois qui ont, parce que ça concerne plutôt des femmes ce que tu proposes, à des fois des femmes qui oublient comme pour beaucoup, hein, d'écouter nos voix et de plutôt suivre ce que nous demande le monde extérieur. Et c'est vrai que c'est important de suivre ses rêves. Du coup, dans ce que tu proposes, tu proposes autant des formations. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est dans le yoga? Est-ce que tu as aussi pas mal développé des accompagnements pour les femmes entrepreneurs? Voilà, quelle est ta mission aujourd'hui que tu te donnes et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui aux femmes justement qui ont du mal à écouter leur voix intérieure et à trouver quel cap prendre justement en parlant de bateau?
Alors déjà, il faut savoir que moi aussi je rencontre des challenges et là j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 33, donc depuis je suis en continuel en fait... Enfin, je fais beaucoup de travail d'introspection pour justement essayer de comprendre quels sont mes désirs profonds et quelles sont mes peurs. Et dans nos chemins de vie, je pense qu'il y a ça. Il y a parfois besoin de cette personne externe qui va pouvoir soit faire miroir avec nous, soit qui va pouvoir nous apporter des expériences personnelles qui vont nous aider. Et du coup, moi, dans mes accompagnements, donc aujourd'hui, par exemple, j'ai un accompagnement qui est du coaching entrepreneur pour, en fait, des femmes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle Anouk était il y a 6-7 ans de quand elle a commencé son entreprise de business du yoga. Ouais. Où clairement, à ce moment-là, elle a tellement de peur, elle a tellement de manque de confiance en elle, elle a tellement peur du jugement des autres, elle ne sait pas si les actions qu'elle fait vont vraiment faire bouger quelque chose, elle ne sait même pas si c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, enfin bref, elle est hyper submergée de tout. Et moi aujourd'hui avec... presque 7 ans de plus dans ce chemin-là, je me dis, mais waouh, aujourd'hui, tout ce que j'ai créé, tout ce qui est en alignement avec moi, à quel point je suis fière de ce que j'ai créé. Et donc, c'est ça qu'en fait, j'ai envie d'aider ces femmes-là. Donc, je le fais à travers ces accompagnements privés. Et puis dans mes formations en présentiel, j'ai un 30 heures de yoga, j'ai d'autres formations de yoga où dedans en fait j'invite à chaque fois ces notions d'entrepreneuriat qui sont pour moi hyper importantes parce que c'est redonner aux femmes leur empouvoirment financier aussi, leur liberté financière qui fait que pour moi aussi d'une certaine façon c'est ma vision des choses mais je trouve que quand on a ce pouvoir financier, on se sent libre, on se sent forte. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement... qu'on n'a pas besoin des autres. Parce qu'il peut y avoir ce truc de « Ah, moi, je suis indépendante. » Donc, oui, on est indépendante, mais on a quand même parfois besoin des autres. Tout le monde a besoin des autres. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui m'anime.
Ce que je trouve hyper intéressant et ce que j'ai aussi aimé avec toi, dès que je t'ai rencontrée, c'est je trouve que tu as une approche différente en fait des gens ici, autant sur le bien-être que le business. Et il y a un peu ce côté, il n'y a pas de langue de bois. Et notamment là, tu parles de finances et je ressens ce côté-là. Peut-être que je ne sais pas, tu vas pouvoir me dire, peut-être que ça vient un peu de cette mentalité à l'australienne. Il y a autant ce côté un peu financier où tu n'hésites pas à en parler. Je trouve qu'aujourd'hui... c'est un vrai sujet parce qu'en fait, quand on entreprend, et souvent encore plus nous les femmes, on n'ose pas trop parler de finances. Moi, je le vois un peu dans mes séjours ou sur les activités que je fais de coaching à aider les gens qui sont dans l'entrepreneuriat du bien-être. Souvent, quand je demande un petit peu les montants qu'ils estiment ou qu'ils aimeraient avoir, c'est vraiment des tout petits montants. Et j'avais lu des choses où justement, ils disaient que les femmes, notamment avec ce côté un petit peu français, qu'on n'ose pas gagner des sous, qu'on n'ose pas en parler. Voilà, c'est vraiment un gros tabou. Donc, il y a ce gros tabou-là, je trouve, en France, dans l'entrepreneuriat, mais qui, du coup, nous met vraiment un mal des fois quand on se lance dans nos business. Et le deuxième qui, pour moi, est clé et on se ressemble beaucoup là-dessus, c'est que il y a le travail. Le travail, c'est génial et ça doit nous permettre de gagner des sous. Mais on est aussi là pour... en fait, le travail doit aussi nous apporter, nous aider à profiter de nos loisirs et profiter pleinement de la vie. Et tu as aussi cette approche peut-être de cette culture australienne et de qui tu es toi, mais de se dire, ok, le travail c'est bien, mais c'est aussi hyper important. Et on se retrouve des fois à se dire, bah non, mais là je vais me baigner, là je vais surfer, et c'est hyper important, et sans culpabiliser, parce que je trouve que dans cette culture un peu française, c'est toujours plus tu bosses, mieux c'est que tu vas réussir. Alors qu'en fait, c'est important de prendre du temps pour soi. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où te vient ça et pourquoi toi, c'est vraiment des points qui sont importants pour toi, autant le côté financier que de prendre du temps et que le travail ne soit pas le seul but dans notre vie, même et surtout quand on est entrepreneur?
Merci pour tes questions. Alors, en effet, par rapport à tout ce qui est de la thématique de l'argent, en fait, moi, c'est quelque chose qui me porte et j'adore accompagner les femmes là-dedans aussi parce que pour la raison simple que j'ai été une femme qui n'avait pas de thunes. J'ai été une femme qui était sans thunes, qui galérait, qui ne pouvait pas s'acheter les choses dont elle avait envie, qui était toujours dans cette mentalité de « j'ai pas d'argent ». Et c'est hyper inconfortable. Et aujourd'hui, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent qui me permet de faire plein de choses, qui me permet de partir en voyage quand j'ai envie de partir en voyage, qui me permet de prendre soin de moi, de prendre soin des gens que j'aime. Voilà, j'ai des rêves, par exemple, mais aussi de contribuer au bien-être de mes parents qui vieillissent aussi, de les aider financièrement. Donc pour moi, en fait, l'argent est un allié aujourd'hui. Et j'ai beaucoup travaillé ma relation avec l'argent. Et en fait, j'en parle de manière ouverte parce que je pense que plus de femmes devraient s'autoriser en fait à inviter plus d'argent dans leur vie. Alors bon, bien sûr, peut-être que certaines m'écoutent et me disent « oui, c'est facile de le dire ». En tout cas, il y a des choses à creuser là-dedans. Et voilà, et donc ça je trouve ça très important. Et après, ce que tu dis aussi, c'est voilà, ce côté pouvoir prendre du temps et puis kiffer en fait sa vie d'entrepreneuse. Voilà, pas en étant que cerné sur le travail. Pour moi, ça reste un challenge, soyons honnêtes. La petite phrase ou un peu le mindset que j'aime me dire, c'est... Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, en tant que solopreneuse, hein, ce que tu es aussi, on a toutes les casquettes. Et parfois, il y a la casquette de la CEO, donc le big business. Et moi, disons, je suis l'employée et je suis hyper fatiguée, j'ai pas le mood. Et je me dis, mais si tu avais une CEO qui était détachée de toi, qu'est-ce qu'elle te dirait là? Genre... Si c'était la meilleure CEO du monde, si elle était vraiment the best CEO, eh ben elle te dirait, repose-toi, prends le temps. Donc, je pense que voilà, il faut réussir à naviguer avec cette compréhension de t'es ton propre boss et essaye d'être le meilleur boss possible. Et puis, clairement, la vie passe vite. Alors oui, est-ce que c'est l'influence australienne qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de garder mon temps libre pour aller surfer? Je pense qu'à partir du moment où on est surfeur, où on a vraiment une passion comme ça, de toute façon on va réussir à lui faire de la place. Et pour moi la vie c'est pas le travail et c'est vraiment important de... Ah ouais. Et c'est vraiment important...
On peut apprendre à la vie, ce n'est pas que le travail.
Ouais. Et pour moi, la vie, c'est pas que le travail, et c'est vraiment important d'avoir du temps pour profiter de mes proches, de mes passions, voilà.
Merci Anouk, c'est hyper intéressant tous tes conseils. Et justement, tu parles Merci Anouk, c'est hyper intéressant tous tes conseils. Ce que j'aime du coup, c'est que tu as quand même, je trouve, comme je le disais, une approche un petit peu différente des gens, que tous parler des choses des fois dont les gens n'osent pas parler. Et ce côté-là, on le retrouve sur ton site, mais moi, tu me l'as déjà dit que tu es une pirate. Et j'adore ça parce que j'ai rarement entendu. Souvent, on parle plutôt, les gens qui sont connectés à l'eau vont parler de sirènes, de dauphins. Et toi, non, tu es une vraie pirate. Et ça te correspond plutôt bien. On le retrouve sur ton site d'ailleurs, et je trouve que c'est ça qui donne envie d'onboarder avec toi. Tu dis que tu es une pirate, que tu aimes explorer, que voilà, tu navigues ton océan. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu es devenue une pirate et en quoi tu te considères être une pirate?
Oui, alors c'est un petit peu particulier en effet ce truc de « je me prends pour une pirate ». Mais je pense que c'est vraiment dans ma personnalité. Voilà, c'est quelque chose qui est au fond de moi depuis, j'ai l'impression, depuis toujours. Et donc pour moi, en fait, on navigue tous sur l'océan de notre vie. Mais il y a comme un peu plusieurs troupes. Il y a un peu cette... voilà, les gens qui naviguent mais qui sont commandités par l'État ou par voilà, la couronne d'Angleterre. Je ne sais pas si on reprend un petit peu des exemples de ce qui a pu se passer vraiment à l'époque des vrais pirates. Et finalement, ils suivent des directions et ils sont dans des missions, ces gens sur ces bateaux, mais qui ne sont pas, de leur propre chef, qui ont été dictés par quelqu'un d'autre. Donc, ils naviguent sur l'océan, voilà, dicté par d'autres... Enfin, les coordonnées, ce ne sont pas eux qui les ont mis. Et je pense que, dans une certaine mesure, à un moment donné, on est tous là-dedans. Donc, finalement, on est un peu endormis. On suit des rêves, mais on ne sait pas... Ils appartiennent à qui, ces rêves? Est-ce que c'est vraiment les miens? Et puis, il y a cette phase un peu d'éveil qu'on trouve aussi dans le développement personnel ou dans la spiritualité. On se dit, attends, là, je suis en train de courir après des choses qu'en fait... d'autres personnes me demandent, hein, c'est un petit peu comme j'ai dit en début d'interview. Et quand on commence à se poser des questions là, on chemine en soi vers l'éveil. Et donc, pour moi, on passe du côté, maintenant, c'est un pirate. Et maintenant, les coordonnées GPS, et ça fait partie un peu de mon univers du piratisme en soi, c'est que les coordonnées GPS, ils ne vont plus être dictées par quelqu'un à l'extérieur de toi, mais ils vont être dictées par l'intérieur de toi et par en fait quelque chose de plus grand que toi aussi. Ça va au-delà de ton côté cognitif, ça va dans ta boussole émotionnelle et intuitive qui ne peut jamais casser, qui est incassable, qui sera toujours là. Et donc de reconnecter avec ça, plus tu vas reconnecter avec ça, plus tu vas commencer à avoir des choses, par exemple des visions de ce que tu as envie de faire, des désirs, reconnecter avec ses désirs. Et ça, les femmes, on a un gros travail à faire là-dessus aussi, de se laisser désirer des choses. Et ça reconnecte aussi avec l'argent. Qu'est-ce que tu mérites? Donc, en fait, il y a plein de choses qui émergent comme des bulles de rêve. Et une fois que tu cristallises ça, là, maintenant, il y a ton côté yang à mettre en place. Donc, c'est quoi ton objectif? Dans quoi est-ce que tu t'engages? Où est-ce que tu mets ton action? Et voilà, et là tu deviens pirate de ton bateau. Et si tu veux, j'aime bien aussi ce côté pirate parce que je pense que quand quelqu'un commence à vivre ses rêves, on le traite de fou. Et en fait, c'est complètement fou de vivre ses rêves parce que il faut être un peu starbe, faut se lancer dans le vide, faut se dire je sais pas où j'y vais, mais j'y vais et surtout j'y crois. Et ça, c'est énorme de croire en soi, de croire en ses rêves. Mais pour moi, il n'y a rien de plus fort. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui croit en ses rêves et qui dit aux autres qu'il traite de fou. Tu vois, genre... Et voilà. Donc, voilà un peu pour... Je pourrais en parler pendant des heures. J'essaye d'écrire un livre sur cette philosophie-là, voilà, qui m'est propre et... Et peut-être que ça sortira un jour, je te dirai.
J'adore, ça donne envie d'embarquer avec Capitaine Pirate Anouk. Hein. On arrive on board. Non, mais j'adore cette approche et elle fait du bien, justement. Moi, en tout cas, je me retrouve beaucoup dans cette approche d'arrêter de suivre les conventions, les règles, et d'apprendre à écouter, comme tu dis, ses désirs et d'y aller à fond. Et c'est pas grave si c'est pas la même route que les autres, tant qu'elle nous fait du bien, c'est important. On n'a qu'une vie, donc il faut la vivre à fond. Donc, est-ce que tu dirais justement, j'ai l'impression que ce premier moment un peu de piraterie, il a commencé quand tu es partie assez jeune, du coup, au lieu de partir dans un chemin tout tracé avec des coordonnées vers l'école de commerce, là, tu t'es dit, première piraterie, direction la Grande Australie.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que c'est à ce moment-là? Et j'ai l'impression que c'est aussi à ce moment-là où... tu venais de la montagne, peut-être que c'est en Australie qu'est venue cette approche avec l'océan, d'être connectée avec le surf.
Alors, je dirais que déjà, le truc de « je suis quand même mes rêves », Oui, il y a eu ce truc de, après mon bac, l'Australie, et du coup, c'était un énorme élan. Mais je pense déjà, jeune en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour mes parents parce qu'ils ont réussi à justement me montrer que dans la vie, il n'y avait pas que le travail et qu'on pouvait avoir des passions et que ces passions pouvaient aussi être des choses dont on peut vivre. Parce que mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Ma mère est ostéopathe, elle est devenue ostéopathe à un moment donné où l'ostéopathie n'était pas reconnue. Donc pour elle, tracer sa route. Mon père a construit des cabanes dans les arbres, il a travaillé dans le milieu de la glisse, maintenant il est apiculteur. Donc j'ai eu des modèles en fait. Donc il y avait ça. Après c'était à moi de toute façon de sortir de ma zone de confort, de passer au-dessus de mes peurs pour aller dans ces espaces du coup qui étaient moins conventionnels. Mais oui, je pense que le passage de l'Australie, en tout cas, a été énorme. Et puis aussi, voilà, ce passage de je continue mon stage et je vais dans ce job-là, ou je change de route et là, j'apprends à me connaître. Voilà, au moment où j'ai tourné en fait de cap au niveau professionnel. Et encore aujourd'hui, je pense que je continue et je pense que c'est toute une vie en fait. Qu'on affine son cap intérieur pour aller encore au plus proche de soi. C'est-à-dire que même, tu vois, quand on parle avec d'autres de nos amis entrepreneurs, genre Sarah Vidal ou tu vois, on sent que dans nos conversations, parfois on se dit, je sens que je me rapproche de quelque chose et que je vais vers moi en fait. Et j'avais entendu une très belle phrase d'un peintre aborigène, je me souviens plus du nom, mais qui décrivait en gros ses toiles et qui a vécu jusqu'à très 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 tard. Et il disait, à 98 ans, je serai à peu près bon. À 99 ans, je serai un peu meilleur. Et en fait, qui montrait que, est-ce qu'on arrive vraiment déjà complètement à destination ? Peut-être un jour. Mais en tout cas, il y a toujours cette direction qui est donnée. Et je pense que c'est life work, et c'est ça aussi qui est trop chouette. Je sais pas si ça répond à ta question.
Si, complètement. Merci Anouk, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je suis d'accord avec toi. Après, comme tu le dis, l'océan, je pense que c'est des étapes, on a des moments où on a des envies et au fur et à mesure du temps nos envies changent et on évolue, et par contre c'est important de toujours apprendre à écouter ses envies parce que des fois on les oublie, et c'est ça qui est important, qui est essentiel pour toujours être aligné avec sa vie et ses désirs actuels. Mais c'est en tout cas hyper inspirant de savoir que toi, tu as écouté vraiment ta voix si tôt, parce que beaucoup le font plus tard. Et j'ai l'impression que aussi c'est dans ce moment en fait de vie assez jeune qu'est arrivé beaucoup l'océan et la nature. Tu as passé beaucoup de temps à surfer. Tu dis même que tu as accompagné des gens au surf, que c'est devenu une vraie passion, que tu en as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par rapport justement à ce podcast où il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi sur les bienfaits de l'océan, qu'est-ce que t'as apporté le surf à ce moment-là? Est-ce qu'il est vraiment arrivé à un moment où, est-ce qu'avant tu en faisais moins et là d'un coup c'est devenu beaucoup et tu t'es découvert en plus des choses avec ce sport, et comment ça t'apporte aujourd'hui le surf mais aussi les sports d'océan dans ta vie?
Alors c'est une bonne question. Je pense que ce que l'océan m'a apporté en premier, c'est une communauté. Alors c'est peut-être pas une réponse auquel on s'attendrait, parce que bah oui, forcément il y a toute la nature autour. Enfin, là, l'océan c'est la nature, et ça nous permet cette expérience immersive qui fait beaucoup de bien à la tête, on est dans le moment présent. Mais je pense que moi, j'ai toujours été assez connectée à la nature, parce que j'ai grandi aussi dans les Alpes. Mais dans le surf, j'ai aussi rencontré plein de gens, en fait, fantastiques. Des copines, mais de folie en Australie, avec qui j'ai fait des compétitions, avec qui j'ai créé des voyages, avec qui je me suis marrée, dans tous les pays dans lesquels j'ai voyagé en fait, parce qu'après je suis allée en Nouvelle-Zélande, et pareil j'ai participé à des compétitions, donc on crée quelque chose. Et puis, alors la communauté du surf, il y a des choses bien à en dire, il y a des choses plutôt pas ouf à en dire, parce que bon, ça peut être un milieu dans lequel il y a pas mal de drogue et d'alcool aussi, par exemple sur le... Dans certains événements, pour moi, c'est pas mes valeurs. Mais c'est quand même des gens qui ont ce mode de vie quand même plutôt cool. Il y a des vagues, ouais, on a du taf, mais en fait, il y a des vagues. Donc, combien de fois, moi, je me suis dit, non, ce matin, on bosse, et je suis sûre que toi aussi, Laure. Et puis, en fait, on se retrouve à l'eau parce qu'il y a des séries de ouf. Donc... ça te permet quand même de te ramener un peu dans le moment présent et dans... bah en fait, il y a des choses plus importantes là. Là, il y a un moment à partager avec cette communauté, avec ce retour à l'océan. Et voilà, je dirais que ouais, c'est vraiment ça que ça m'a le plus apporté.
Tu fais du surf, mais tu fais aussi de l'apnée. Et tu fais aussi de la voile, et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est aussi pour ça que je me retrouve beaucoup en toi, c'est que tu as cette approche de l'océan où en fait tu sais l'apprivoiser en fonction des conditions et le découvrir avec des sports différents. Est-ce qu'il y a un sport que tu aimes plus que l'autre, et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces trois sports ?
Alors oui, en effet, j'ai élargi... ma gamme d'activités, parce que pendant un moment j'étais vraiment surf, et c'est super le surf comme je viens de le dire, mais de mon point de vue c'est important de continuer à me découvrir à travers d'autres activités, et finalement le surf, lorsqu'on fait du surf on explore que une infime partie de ce que l'océan peut nous offrir, qui est glisser sur des vagues. Et ça c'est génial parce que même quand on voit les dauphins le faire, ça nous rapporte à cette notion de jeu et cette notion de partage dont je viens d'évoquer aussi, qui est très importante pour moi. Cela dit, je trouve que si on fait que ça, on explore qu'une partie aussi de soi, le jeu, le partage, et c'est super. Cela dit, la nature nous offre bien d'autres choses, et notre capacité d'humain humaine nous permet par exemple de faire de l'apnée. Qui est une discipline que j'ai découverte il y a quelques années en Égypte. Pour commencer, c'est ma meilleure amie qui est une apnéiste suisse, qui m'a dit « Je pars en Égypte faire un trip, viens avec nous. » Alors moi, j'avais jamais plongé à plus de 5 mètres. J'étais hyper terrorisée de ça. Et je me vois, j'arrive en Égypte à Dahab, qui est un des endroits, c'est la Mecque de l'apnée. C'est un peu comme si vous aviez jamais fait de montagne, jamais fait de ski, et vos potes vous invitaient à Chamonix pour aller sur un glacier. Bref, j'étais un peu larguée, mais en fait ça m'a beaucoup plu, c'était très challengeant, et ça m'a apporté d'autres dimensions, d'autres explorations de moi-même, qui est l'introspection vraiment. On dit que l'apnée c'est la méditation sans tricher. Parce que si on n'a pas le mental qui est très très calme, si on n'est pas complètement détendu, on ne peut pas descendre en profondeur. Donc ça me permet d'explorer ça, et j'adore, et je sens que ça m'équilibre intérieurement avec le surf, parce que le surf, c'est la surface, c'est le... voilà. Et l'apnée, c'est ce calme profond de descendre dans mon être. Donc j'aime beaucoup ça. Et je le pratique encore, et j'ai hâte de le pratiquer avec toi, cet été à Hendaye ou autre part. Et la voile, c'est venu dans un troisième temps, puisque avec une amie, on avait un projet transatlantique qui ne s'est pas fait, mais en tout cas qui nous a mené vers la découverte de la voile. Et ça, j'adore, parce que c'est un moyen de déplacement, c'est une mobilité douce. Et aujourd'hui, j'essaye au plus possible de diminuer mon empreinte carbone, donc de moins prendre l'avion et de voyager autrement. Et la voile, j'adore. Je suis pas hyper douée, mais en fait, je m'en fous parce que j'apprends un truc de nouveau. Et une approche différente, une relation différente avec l'océan aussi.
Merci Anouk. C'est hyper intéressant justement parce que comme tu le dis, c'est trois sports qui sont tellement différents entre le surf, l'apnée et la voile. Tu peux me dire une expérience de dingue, un de tes plus beaux moments?
Carrément. Alors, pour une histoire par rapport au surf, donc une histoire très très plaisante par rapport au surf, c'est justement quand je prends cette décision de ne pas suivre mon stage et cette voie toute tracée, mais que j'essaie de m'écouter et puis de partir en exploration personnelle et de suivre mes rêves. Quand j'ai pris cette décision-là, la première personne à qui je l'ai annoncé, c'est mon coloc de l'époque qui s'appelait Darren et qui était néo-zélandais. Et je lui annonce et je lui dis « Darren, I'm gonna go and travel the world ». Et il était tellement content pour moi que je prenne une autre direction que celle qui était toute tracée. Et on est partis tous les deux à Byron Bay. C'est une vague qui est très connue qui s'appelle « The Pass », qui est dans une baie. Et c'était le coucher du soleil. Et intérieurement, en fait, à ce moment-là, je me sens tellement libre, tellement heureuse. Je vois plein de visages que je n'ai pas vus depuis longtemps parce que je n'avais pas surfé beaucoup dernièrement. On surfe jusqu'au coucher du soleil. Puis en fait, je tombe amoureuse de Darren. Et Darren tombe aussi amoureux de moi. Donc, c'est un surf que j'oublierai jamais parce que les vagues étaient magnifiques. J'avais tous mes amis et je sentais que le monde s'offrait à moi, en fait. Donc ça, c'est un de mes plus forts souvenirs en surf.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous avons eu un petit souci de micro à la fin, donc on entendait un petit peu moins bien. J'ai demandé à Anouk sur la fin, comment pouvait-on la retrouver sur les réseaux si on est intéressé par ses formations, ses tips d'entrepreneur. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, @AnoukCoreleur, où vous pouvez retrouver toutes ses formations, notamment des formations certifiantes de yoga, sur anoukcoreleur.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mettrai toutes les informations sur Anouk dans le descriptif. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie de vivre l'Ocean Therapy en immersion, retrouvez mes séjours au Pays Basque, dans le Sud-Ouest, mais aussi à l'étranger, dans des endroits magiques près de l'océan, pour justement découvrir le surf, le kite ou l'apnée. Et enfin, si vous avez envie de découvrir la magie de l'Ocean Therapy, où que vous soyez, même loin de l'océan, retrouvez mes séances sur oceantherapytv.com. À très vite pour un prochain épisode salé.